J'ai vraiment pris mon temps pour commencer à faire le tour de cette figure emblématique du serviteur fidèle de Dieu qui est pas loin, d'accord, et qui est lié à Israël. Avant de terminer le second chant, je voulais noter quelque chose que je n'ai pas eu le temps de dire. Hop là. C'est cette expression. Le serviteur ramènera les préservés d'Israël. Je voulais le noter parce que ça, l'Évangile en parle de manière assez forte. Oh, pardon, excusez-moi. C'est les versets 6 du chapitre 49. On est dans le second chant du serviteur. C'est quoi les préservés d'Israël? Ben, c'est un prophète du Nouveau Testament qui va en parler. Vous le connaissez, il s'appelle Caïphe. L'un d'entre eux, Caïphe, qui était, c'est lors du jugement de Jésus. Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, dit: « Vous n'y comprenez rien, vous ne percevez même pas que c'est votre avantage qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. » Ce n'était pas de lui-même qu'il prononça ces paroles, mais comme il était grand prêtre en cette année-là, il fit cette prophétie qu'il fallait que Jésus meure pour la nation, et non seulement pour elle, mais pour réunir dans l'unité les enfants de Dieu qui sont dispersés. Donc, Jean se réfère à Ésaïe et nous dit, Caïphe dit, sans le savoir, que Jésus est celui qui ramènera non seulement la nation d'Israël sous un seul roi, comme promis, mais aussi ses enfants dispersés. Et par enfants dispersés, Jean veut dire les païens. D'accord? Là, il va plus loin qu'Ésaïe. Mais c'est la même façon de s'exprimer. Et c'est Caïphe qui nous le dit, d'après Jean. Bon, je m'avance un peu parce que vous imaginez bien que si je parle de cette figure du serviteur, c'est lié à Jésus d'une manière ou d'une autre, hein? D'accord. Troisième chant, Ésaïe chapitre 50, le chapitre qui suit. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple. Tiens, voilà que le serviteur se fait disciple aussi. Pour que je sache soulager l'affaibli, il a fait surgir une parole. Matin après matin, il me fait dresser l'oreille pour que j'écoute. Il est capable d'écouter maintenant, comme les disciples. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille, hein? Et moi, je ne me suis pas cabré, je ne me suis pas rejeté en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage face aux outrages et aux crachats. C'est que le Seigneur Dieu me vient en aide. Dès lors, je ne cède pas aux outrages. Dès lors, j'ai rendu mon visage dur comme un silex. J'ai su que je n'éprouverais pas de honte. Il est proche celui qui me justifie. Qui veut me quereller? Comparaissons ensemble. Qui sera mon adversaire en jugement? Qu'il s'avance vers moi. Oui, le Seigneur Dieu me vient en aide. Qui donc me convaincrait de culpabilité? Oui, tout cela comme un habit suseront, hein, ceux qui m'attaquent, l'atteignent et les mangera. Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui craint le Seigneur, écoute la voix de son serviteur et qui ait marché dans les ténèbres sans trouver aucune clarté? Qu'il mette son assurance dans le nom du Seigneur, qu'il s'appuie sur son Dieu. Quant à vous tous, qui faites brûler un feu. Dans l'accablement, vous vous coucherez. Hein. C'est ceux qui font un feu pour torturer cette personne. Ah. Les mêmes choses reviennent. Ce nouvel Israël, ce nouveau serviteur, est capable d'écoute. Il est capable de dire les paroles de Dieu. Il est capable de voir ce que Dieu veut faire. Il ne se cabre pas. Il ne se rebelle pas. Il ne recule pas quand Dieu vient vers lui. Au contraire, il est avec Dieu. Ça, c'est sa définition. Il y a un problème. De la même manière que Ésaïe a servi Dieu et a payé le prix pour cela, a été rejeté par le peuple, ce serviteur, ce nouvel Israël, dans son obéissance, sera donc forcément lui aussi en proie à la persécution. Bon, on ne sait pas ce qui arrive à Ésaïe. La tradition nous dit que Manassé l'a mis dans un arbre et coupé en deux, enfin. C'est le passage en hébreu, c'est possible. Mais peu importe, même s'il est mort dans son lit, ses paroles n'ont pas porté le fruit qu'il aurait certainement aimé voir de son vivant. Mais ce serviteur-là dit, vous pouvez même me torturer, moi je reste fidèle à Dieu. C'est le contraire de l'Israël d'avant, n'est-ce pas? Au contraire, si on me persécute parce que je suis Dieu, alors, je ne vais pas cacher mon visage, hein. Je ne vais pas reculer, qu'ils me frappent s'ils veulent. Vous voyez le changement de paradigme? Ils sont tellement proches de Dieu, ils sont tellement certains que Dieu leur viendra en aide, qu'ils n'ont pas honte d'être persécutés pour la parole de Dieu. C'est le contraire du temps d'Ésaïe. Ésaïe est très très optimiste. Alors, Dieu est très optimiste sur ce point-là. Au point où il dit, si vous voulez m'amener au tribunal, allons-y. Celui qui était amené au tribunal au début, c'était Israël. C'est Dieu qui faisait un procès contre lui. Maintenant, Israël est au service de Dieu et dit, si vous voulez me traîner en justice, allez-y, je ne peux pas perdre. Parce que le Seigneur Dieu me vient en aide. Bien. Vous voyez le changement? Mais c'est extraordinaire. Et puis, à la fin, est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici qui entend la voix de son serviteur et qui marche dans les ténèbres? Est-ce qu'il reste un Israélite qui ne connaît pas le salut de Dieu? Alors, écoute, mets ton assurance dans le Seigneur. Ça aussi, ce chant-là, il résonne pour nous en tant que chrétiens, n'est-ce pas? En Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, c'est peut-être le chapitre le plus violent de l'évangile de Jean. Jésus et les chefs du peuple ont deux visions diamétralement opposées et ils vont clasher en Jean chapitre 8, entre autres. Mais c'est le plus, ils vont essayer de le tuer deux fois en un chapitre. Les chefs lui dirent alors, « Toi, qui es-tu ? » Jésus leur répondit, « Ce que je ne cesse de vous dire depuis le commencement de cette conversation, entre autres. En ce qui vous concerne, j'ai beaucoup à dire et à juger. Mais celui qui m'a envoyé est véridique. Et ce que j'ai entendu auprès de lui, c'est cela que je déclare au monde. » Mais ils ne comprirent pas qu'il leur avait parlé du Père. Jésus leur dit alors, « Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Je dis ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » Et alors qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Et par la suite, il dit, « Quant à moi, c'est parce que je dis la vérité que vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché ?» Ah, c'est les mêmes paroles que le serviteur emploie dans Ésaïe 50. « Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ?» Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. C'est parce que vous n'êtes pas de Dieu que vous ne m'écoutez pas. En d'autres termes, Jésus dit quoi? Dieu m'a donné une langue de disciple. Tout ce que je vous dis, j'ai entendu le Père me le confier. Je ne dis rien de moi-même. Combien de fois il dit ça dans l'évangile de Jean? Je vous apporte exactement le message de Dieu. Et vous, vous n'écoutez pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas d'Abraham. Vous n'êtes pas l'Israël, serviteur de Dieu. Au contraire, votre père, c'est le diable. Votre père, c'est Satan. Vous n'êtes pas de Dieu. Ça se voit au fait que vous ne m'écoutez pas. Parce que vous ne m'écoutez pas, Dieu, pour lui, vous n'êtes plus de lui. Qui peut me convaincre de péché? Jésus ne parle pas de faute morale ici. D'accord? Il dit, montrez-moi dans ce que je vous dis. En quoi j'ai péché contre la loi? En quoi je pêche contre Dieu? Ce que Dieu dit depuis toujours. Montrez-moi. Comparaissons ensemble. Est-ce que Jésus a peur d'être trouvé en défaut? Non. Pas du tout. Il est sûr de lui. Donc voilà, ça c'est mon retard. Mais de tous les chants du serviteur, celui que vous connaissez certainement, c'est le quatrième, c'est le plus connu. Et il est aussi, c'est un peu la grande finale aussi de ce beau spectacle, de ce feu d'artifice extraordinaire qui nous dessine de loin, de manière imparfaite, mais le serviteur que Dieu cherche en Israël. Donc on va voir le quatrième, et ça va occuper notre heure ensemble, ou ce qui reste de la demi-heure qui nous reste. C'est long. Donc, je vous encourage à lire dans vos Bibles, d'accord, pour que vous ne soyez pas déroutés par les images qui défilent. Et là, pour le coup, le chant est plus long que les autres, plus complet, plus complexe aussi. C'est la fin du chapitre 52. Voici, chapitre 52, verset 13, pour ceux qui cherchent dans leur Bible, pardon. Voici que mon serviteur saisira. Il sera exalté, érigé en prince, élevé au-dessus de tout. Comme des multitudes avaient été stupéfaites à sa vue, tant son aspect était massacré, inhumain, Ils n'avaient plus l'apparence des fils d'Adam. Ainsi, des multitudes de nations s'étonneront à son sujet. Devant lui, des rois resteront bouche close, car ils verront un événement tel qu'on ne leur avait jamais raconté, qu'on ne leur a jamais raconté, et observeront quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu parler. Qui donc a cru à ce que nous avions entendu dire ? Le bras du Seigneur, en faveur de qui a-t-il été dévoilé ? Devant lui, celui-là végétait comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre aride. Sans beauté ni éclat, nous l'avons vu, et sans apparence attrayante. Objet de mépris, rebut de l'humanité, homme de douleur et connaissant la maladie, il était méprisé comme ceux devant qui on se voile la face, et nous ne lui avons pas prêté attention. Or, c'était nos maladies qu'il supportait, nos douleurs qu'il a prises en charge. Et nous autres, nous l'estimions frappé, brisé et humilié par Dieu. Il a été transpercé à cause de nos révoltes, écrasé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et c'est grâce aux plaies de sa flagellation que nous sommes guéris. Tous comme des brebis, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Et Yahvé a fait s'acharner sur lui les crimes de nous tous. Affreusement traité, il s'humiliait. Il n'ouvrait pas la bouche, comme un agneau conduit à la boucherie, comme devant les tondeurs, une brebis muette et n'ouvrant pas la bouche. Par arrestation et jugement, il a été enlevé. Qui se préoccupe du renversement de son sort ? Oui, il a été retranché de la terre des vivants. À cause de la révolte de son peuple, il a été frappé à leur profit. On lui a dévolu sa sépulture au milieu des impies et son tombeau avec les riches, alors qu'il n'a jamais fait de violence à la loi, ni de sa bouche proféré de mensonges. Yahvé a conçu le dessein de l'écraser par la souffrance. Si son âme offre un sacrifice de réparation des fautes, il verra une postérité, il prolongera ses jours. Ainsi, le dessein de Yahvé s'accomplira par sa main. À cause du travail pénible de son âme, il verra, il sera rassasié de jours, de sa connaissance. Juste, mon serviteur dispensera la justice au profit des multitudes, du fait que lui-même supporte leur perversité. C'est pourquoi je lui attribuerai des multitudes, et avec les puissants, il partagera le butin de guerre, parce qu'il a livré son âme à la mort, a été compté parmi les révoltés, alors qu'il supportait les péchés des multitudes et qu'il intercédait pour les révoltés. Ouf, une longue lecture, et excusez-moi, j'ai glissé ma langue à fourcher à plusieurs reprises. Bon, il se peut que vous ayez une traduction un peu différente, c'est normal, hein, c'est un cantique dans un prophète, donc on est au summum de la poésie hébraïque. Et il y a des choses qui restent quand même assez obscures, et peut-être c'est bien de les laisser obscures, on pourrait en parler pendant des heures. Alors, j'aimerais vous proposer, comme je le fais quand on regarde un livret de haut, on va essayer de regarder ce chant rapidement, le mouvement de ce chant, d'accord ? Comme je le fais pour les livrets, c'est à prendre avec un grain de sel, vous pouvez affiner ou corriger cela avec le temps. Mais je voulais vous montrer que ce n'est pas juste des propositions qui sont lancées un peu au hasard comme ça, il y a une histoire qui est racontée, d'accord ? Et malgré les zones d'ombre, je veux que vous puissiez en profiter. Alors, c'est quoi ? En fait, vous avez remarqué les répétitions, dès que vous entendez une répétition dans un texte hébraïque, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Il y a des choses qui reviennent assez fréquemment. Au début, dans les trois premiers versets, Dieu annonce que le serviteur va être glorifié. Le texte, l'hébreu dit « il saisira ». Ce qui est peut-être traduit dans votre Bible comme « il réussira », je ne sais pas ce que vous avez comme traduction. Mais bon, en tout cas, il sera exalté. J'aimais bien le mot « saisir » parce qu'en français aussi, on a ce double sens de « saisir », c'est comprendre, mais c'est aussi « saisir », prendre. D'accord ? Et donc, le serviteur qui est présenté ici va prendre la royauté que Dieu lui offre. Alors, son serviteur est si glorifié que même les nations, c'est-à-dire les païens, même les païens remarquent que quelque chose est en train de se passer. Et la multitude est stupéfaite. Et elle se pose une question. C'est la question du chapitre 53, verset 1. Qui croirait ce que nous entendons dire ? En faveur de qui le bras de Yahvé a-t-il été manifesté ? Donc ils sont étonnés. Troisième partie. Nous, alors il n'y a pas marqué les nations, mais nous, continuent leur parole. Donc je propose que ce soit les nations, mais si c'était quelqu'un d'autre, ce n'est pas très grave. Ce groupe dit, nous ne connaissions pas très bien ce serviteur que Dieu a élevé. D'accord ? Donc, il est élevé. On dit, oh, mais qui aurait pu croire ça ? On ne le connaissait pas comme ça. En fait, son apparence nous avait rebutés. On n'aurait jamais imaginé que Dieu le choisisse, lui, pour être glorifié. Vous avez le verset 2 et 3 qui sont très connus parce que cette expression qui revient, homme de douleur, c'est un homme qui est familier de la souffrance et quelqu'un qui est abattu tout le temps. Comment est-ce que c'est lui qui pourrait gagner ? Alors, face à ce retournement de situation, que font les nations ? Ce que Ésaïe rêverait que son peuple fasse en son temps, c'est-à-dire, ben, ils reconnaissent leur mécompréhension, ils reconnaissent leurs limites. J'ai mis leur faute. C'était nos maladies qu'ils supportaient, et nous croyons que c'était sa faute à lui. Nous l'estimions frappé par Dieu. Il a été transpercé à cause de nos révoltes. Ce qui est intéressant, c'est que si vous lisez l'évolution de cette description du serviteur, vous avez vu comment il sert Dieu, et plus il sert Dieu, plus les autres le persécutent. Un peu comme si peut-être ceux qui disent « nous », ils sont en train de dire « il subit nos fautes » parce que c'est nous qui l'avons tapé. Vous comprenez ? Nous pensions qu'il était détesté de Dieu, donc nous l'avons rejeté physiquement. C'est nous qui l'avons fait du mal. C'est ça les révoltes, les crimes dont il est peut-être question ici. Leur crime est de l'avoir mésestimé. La flagellation dont il est question, c'est peut-être eux qui tenaient le manche du fouet. Alors, bon, j'ai choisi cette grille de lecture parce que bon, je crois que ça correspond bien à ce qu'on lit dans les autres chants. Mais imaginons que ce « nous » soit un autre groupe ou qu'ils redisent simplement le même groupe, qu'ils redisent la même chose. À partir du verset 6. Nous tous, comme des brebis, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. C'est ça qui me fait dire que c'est peut-être Israël qui parle ici, parce que ça, c'est une description d'Israël au temps des juges, vous vous souvenez ? D'accord ? Et le troupeau de Dieu, ça, c'est une image précise d'Israël, et chacun va dans son coin. Et qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu a fait acharner sur lui les crimes de nous tous. Il était maltraité, et il n'ouvrait pas la bouche, ça correspond à ce qu'on a vu avant. Avant, il était résigné à souffrir pour Dieu. Maintenant, il ne dit plus rien. Il ne dit même plus comparaison devant Dieu, voyons qui c'est qui a raison. Il ne dit plus rien. Sa confiance en Dieu est telle qu'il laisse Dieu parler. Et il a dit tout ce qu'il avait à dire. Il ne lui reste plus qu'à souffrir, c'est terrible. Alors pourquoi est-ce que Israël se joint à cette confession ? Eh bien, parce qu'eux aussi ont méconnu le serviteur. Versets 8 et 9. On l'a mal connu. On s'est débarrassé de lui et on l'a préparé un tombeau chez les impies. On était prêt à le considérer comme un païen ou comme un riche. Alors c'est ironique ici, n'est-ce pas, d'accord ? Alors, une nouvelle fois, une seconde fois, quelqu'un annonce sa stupéfaction. Peut-être le prophète, je ne sais pas qui. Ce n'est pas très clair. Parce que ce n'est pas comme dans une pièce de théâtre où il y a des didascalies, où il y a des devant chaque tirade, on nous dit qui parle. Il y a des personnes qui parlent et il faut un peu essayer de résoudre cette énigme. Mais qui est stupéfait, je ne sais pas. Mais de quoi est-il stupéfait ? Il est stupéfait de ce que Dieu ait choisi, que c'était le dessein de Dieu de prendre ce qui était méprisé. Ils n'arrivent pas à comprendre ça. En tout cas, ils n'arrivaient pas. Et pourtant, à la fin de ce chapitre, qu'est-ce qui se passe à nous ? Dieu justifie son serviteur. Comment est-ce qu'on justifie quelqu'un ? On montre que tout le long, c'est ça qu'on avait en tête. D'accord ? Il montre que c'est le serviteur qui, en se taisant et en acceptant de prendre des coups, alors qu'il n'avait rien fait, ça montre que le choix de Dieu était arrêté par avance et que la foi de ce serviteur en Dieu était bien placée. D'accord ? Bon, c'est assez extraordinaire parce que ça ne donne pas envie d'être prophète, ça. Mais est-ce que vous voyez la différence avec la première partie d'Ésaïe ? Ils le rejettent, et quand Dieu montre quel est son dessein, qu'est-ce qu'ils font ? Je vous avais dit tout à l'heure, j'ai vu des yeux tiquer, j'ai vu des sourcils monter. Dieu accepte la repentance même après coup. Ils ont rejeté l'instrument de salut de Dieu, et quand ils s'en rendent compte, Dieu ne dit pas « c'est trop tard ». Au contraire, on découvre que c'était le plan de Dieu tout le long. « Je vous avais envoyé cette personne. Votre rejet n'a fait que confirmer mon plan. » Il est encore temps, n'est-ce pas, de confesser notre méconnaissance et de suivre ce serviteur. Maintenant qu'il est roi de toutes choses, il faut le suivre. Ça va ? Comme je vous ai dit, il n'y a pas les titres, donc s'il y a d'autres personnages qui interviennent, ce n'est pas très, très important. C'est ce mouvement de « Oh ! Oh mince ! Aïe, aïe, aïe !» Et puis ça part dans l'autre sens. « Aïe, aïe, aïe ! Oh mince ! Et oh !» Comprenez, avec des mots qui n'ont pas plus de deux lettres. Ça finit bien. Ça finit bien. Alors, il y a deux phrases que j'ai choisies. Là, certainement, vous allez me dire, mais dans la traduction, ce n'est pas aussi clair. J'ai choisi de vous présenter, de vous proposer. C'est les versets 10 et 11. En fait, deux fois, comme dans toute bonne poésie hébraïque, les choses sont dites deux fois. C'est le même message qui est passé. Dieu avait conçu le dessein de l'écraser par la souffrance. C'est une parole horrible. De la même manière que Dieu avait décidé d'envoyer Ésaïe pour que personne l'écoute. Dieu a fait ce sacrifice de quelqu'un qu'il aime. Si son âme offre un sacrifice de réparation des fautes, il verra une postérité, il prolongera ses jours. Ce n'est pas forcément les fautes morales. Hein. Ce terme de sacrifice, de réparation, c'est plutôt une réparation d'une alliance, d'une amitié, d'une relation. Donc, il va faire cela, il va accepter d'être le prix pour qu'il y ait une relation continue entre « m » et « m ». Comprenez, Dieu et le peuple qu'il appelle, les hommes qu'il appelle. Et une deuxième fois, la même chose est dite. Le dessein de Dieu s'accomplira par sa main. À cause du travail pénible de son âme, il verra, il sera rassasié de sa connaissance. Sa connaissance de quoi ? De Dieu. D'accord ? Puisqu'il croit fermement dans la parole de Dieu, il verra l'accomplissement de cette promesse. Alors, c'est à ce moment-là qu'on pose la question que vous connaissez bien parce qu'elle est tirée d'Actes chapitre 8. C'est une bonne question, et peut-être vous l'aviez tout le long. Mais c'est qui ce serviteur alors ? Parce que plus tu nous le présentes, plus ça devient précis. On est passé de Dieu qui dit à Israël, c'est toi mon serviteur, et maintenant ce serviteur sauve Israël, alors, c'est un peu bizarre, et puis maintenant ce serviteur souffre et paye le prix de la méconnaissance de ses propres concitoyens. Et on a le droit de se poser cette question-ci. Vous vous souvenez ? L'Éthiopien qui est dans le désert, il rentre de son pèlerinage à Jérusalem où il a étudié la loi, mais il est en train de lire un passage. Vous le reconnaissez ? Comme une brebis que l'on conduit pour l'égorger, comme un agneau muet devant celui qui la tond, ainsi il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, il a été privé de son droit. Sa génération, qui la racontera ? Car elle est enlevée de la terre, sa vie. Et il se pose la même question que nous. S'adressant Philippe, au diacre qui était là, l'eunuque lui dit, « Je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe ouvrit alors la bouche et partant de ce texte, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Pourquoi est-ce que l'eunuque qui vient à Jérusalem pour étudier la parole n'a pas la réponse à cette question ? Parce que le texte ne permet pas une réponse très facile, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec moi ? Qui est ce serviteur ? Et voilà que Philippe part de ce texte pour lui parler de Jésus. Et je vous avais dit qu'il ne faut pas faire ça. Ésaïe ne peut pas parler de Jésus, il ne le connaît pas. Non. Philippe, qui lit les Écritures comme son maître, dit « Ce serviteur que Ésaïe esquisse, ce serviteur qui est prêt à servir Dieu même au péril de sa vie, et il ira jusqu'au bout de son obéissance, c'est Jésus. Laisse-moi te présenter celui qui donne un visage concret à cette attente profonde d'Israël, qui, on le sait, par l'expérience et par l'histoire, n'est pas un serviteur parfait de Dieu. Ah. Philippe, donc, ose lire les Écritures d'une manière extrêmement forte. Le flou est laissé dans l'Ancien Testament, et je crois que c'est bien de le laisser ainsi. Tous ceux qui servent Dieu ressemblent de près ou de loin à cela. Mais aucun d'entre eux pourrait jamais approcher le serviteur S majuscule. Philippe n'est pas en train de dire « la réponse à ta question, c'est Jésus ». Il dit « j'ai une réponse qui dépasse ta question ». Quelqu'un que tu ne connais même pas. Mais je pars de ta question, qui est une bonne question, pour arriver à une réponse plus grande. Okay? Sinon, l'ennemi a dit « ah, c'est bien, ben, j'ai la réponse à ma question, je peux rentrer chez moi maintenant ». Non, 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 non. Ce que Jésus accomplit dépasse de loin ce que Ésaïe pouvait imaginer. Un vrai serviteur, parfait. Je vais expliquer ce que je veux dire par cela. Quand le Nouveau Testament utilise ce passage, qui, de tous les passages de l'Ancien Testament, franchement, difficile de ne pas penser à Jésus, n'est-ce pas? On pense à la croix, on pense à plein de choses. Mais bizarrement, le Nouveau Testament ne suit pas trop cette ligne-là. Il cite beaucoup Ésaïe, 52-53, mais pas pour les raisons qu'on attend. En Romains, Paul écrit « Je me suis fait un point d'honneur de n'annoncer l'Évangile que là où le nom du Christ n'a pas été encore prononcé. » Ainsi, je me conforme à ce qui est écrit, ils verront ceux à qui on ne l'avait pas annoncé et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Lui, il lit Ésaïe 52 et il dit, Jésus m'envoie vers ceux qui ne comprennent pas. C'est ça que lui, il lit. En Romains chapitre 10, hein, c'est la même utilisation de ce passage. Tous n'ont pas obéi à l'évangile. Ésaïe dit en effet, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Il applique ça à Israël. Ok. Jean utilise ce passage aussi. Quand il parle des signes que Jésus a faits, c'est à la fin de son ministère. « Quoi qu'il eût opéré devant eux tant de signes, ils ne croyaient pas en lui, de sorte que s'accomplit la parole que le prophète Ésaïe avait dite, « Seigneur, qui a cru ce qu'on nous avait entendu dire ? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Le même Ésaïe a indiqué la raison. Et vous vous souvenez de ce passage, il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur. Cela, verset 41, Ésaïe le dit parce qu'il a vu sa gloire et il a parlé de lui. Certains parmi les dirigeants eux-mêmes, beaucoup avaient cru en lui, parmi eux. Mais à cause des pharisiens, ils n'osaient le confesser, de crainte d'être exclus de la synagogue. C'est qu'ils préféraient la gloire qui vient des hommes à la gloire qui vient de Dieu. Je traduis, ils préfèrent obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Le serviteur, c'est celui qui dit « à tout prix, je vais obéir à Dieu ». Et ils ne font pas partie de ce groupe-là. C'est un jugement terrible. Il puise dans ce texte d'Ésaïe pour nous dire, surtout, personne ne pouvait le croire. En regardant Jésus, personne ne pouvait croire, tiens ça, c'est le serviteur selon notre définition. Ça, c'est la gloire de Dieu. Non, parce que ça ne ressemble pas trop à la gloire des hommes. Une autre chose, ce qui nous aide à mieux comprendre l'évangile, je vous avais dit que ça marche dans l'autre sens aussi. Pourquoi est-ce que Jésus fait des miracles? Les évangélistes nous le disent. Matthieu chapitre 8. Il chasse les esprits d'un mot et guérit tous les malades pour que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète Ésaïe. C'est lui qui a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. C'est un signe de la part de Jésus. Les malades en Israël, il y en a eu beaucoup. Hein, pendant la vie de Jésus et même après. Ils n'ont pas disparu. Mais il faisait ces miracles comme signe de quoi? Qu'il était le serviteur de Dieu. C'était une manière de dire, je fais ce que Ésaïe a décrit. Bon, on n'a pas le temps de lire le texte en 1 Pierre 2. Je trouve ça marrant parce qu'il commente tout Ésaïe. Vous pourrez le lire, c'est à partir du verset 21. Et lui, il dit, c'était nous les brebis égarées. Et Dieu, le Christ, nous a rassemblés dans un troupeau. Luc 22. Jésus annonce à ses disciples avant sa passion Prenez votre sac, votre bourse et votre épée. Pourquoi ? Parce qu'il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. On l'a compté parmi les criminels. De fait, ce qui me concerne va être accompli. Et en Marc chapitre 15, ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, c'est au niveau de quand il est mis dans son tombeau, il a été mis au nombre des malfaiteurs. En d'autres termes, qu'est-ce que j'essaie de dire ? Quand le Nouveau Testament cite Ésaïe 53, ce n'est pas pour ce qui nous paraît évident. Que Jésus prend la faute des coupables, que Jésus fait un sacrifice de réparation. On ne nous parle pas de Jésus, l'agneau. Hein, d'ailleurs, si vous lisez attentivement le texte, l'agneau, il ne va pas du tout au sacrifice, d'accord ? Il va à la tente. Ce n'est pas ça. Ce que les apôtres voient dans ça, c'est Jésus a paru, Dieu l'a glorifié, et ils ne l'ont pas reconnu. Alors, Dieu nous envoie vers ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui n'ont pas entendu. Ceux qui ne veulent pas entendre, on les laisse et on part vers d'autres. Il a été mis de côté. C'est le rejet par Israël du Sauveur, du Messie qui a été annoncé, qui est mis en avant. Ils sont frappés. Pour quelle raison ? Parce que Jésus ne cesse dans les évangiles de se présenter lui-même comme le serviteur de Dieu. Pas seulement dans sa souffrance sur la croix à la fin, mais tout au long de son ministère. Il se présente lui-même comme Israël. Il refait, il retrace tous les pas d'Israël. Il passe par les eaux du baptême. Il va dans le désert pendant 40 jours. Il ne cesse de dire à ses disciples, « Je suis le bon berger. Je suis la porte des brebis. » Tout ce qu'il fait montre non seulement qu'il est un homme, mais qu'il représente, un homme, pardon, qui obéit à Dieu, mais qu'il représente le genre de serviteur que Dieu cherche en Israël, au point où il peut être confondu avec Israël. Voilà pourquoi les disciples s'arrêtent sur ces textes dans ce sens-là. Comment est-ce que nous avons pu rejeter celui qu'on attendait tant ? Peut-être c'est parce qu'on attendait la mauvaise chose. C'est ça la bataille entre les chefs du peuple et Jésus. Quelles sont les attentes messianiques que vous pensez que Dieu doit honorer ? Les vôtres ou les siennes ? Qui est le vrai Israël ? Vous qui emportez les robes ou moi qui accomplis la volonté du Père ? Posez-vous la question. Ce n'est pas étonnant que les foules vont à lui. Sans le savoir, ils reconnaissent en lui ce qu'ils aimeraient être. Ça peut paraître bizarre d'en parler en ces termes-là, qu'un homme représente le peuple, mais c'est un peu ce qui est en train d'arriver dans ces chants du serviteur. Où on part du peuple, puis on finit par une figure qui paraît être une personne, qui est décrite comme cela. Aujourd'hui, les Juifs encore, ils sont très clairs sur cette question. Le serviteur d'Ésaïe, c'est Israël, c'est le reste fidèle d'Israël. D'accord ? C'est ça qu'ils lisent dans les Écritures. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui est marqué dans les Écritures. Nous savons que le vrai reste fidèle, ils ont raison. Le vrai reste fidèle, c'est Jésus. Le vrai rejeton qui sort de la souche de Jessé, c'est Jésus. Et pas simplement les quelques Israélites qui sont revenus à Dieu après le jugement. Il les représente, il les défend, il les entoure, il les protège. Il prend leur place. Autant j'aimerais parler du sacrifice de Jésus et comment il détruit le péché, autant notre regard dans ce texte doit surtout être sur le fait que Dieu va le glorifier. Et c'est en ces termes-là que Jésus parle, quand il parle de sa mission, de sa glorification. Quand Dieu l'élèvera, alors il va l'élever par une croix, puis il va l'élever hors du tombeau, puis il va l'élever au ciel. Mais pour quelle raison ? Pour montrer qu'il était le meilleur. Non. Pour quelle raison ? Pourquoi est-ce que Jésus est élevé ? Ésaïe nous donne la réponse. Pour qu'il soit vu par tous. Pour qu'à sa vue, tous se dirigent vers lui. Tous ceux qui veulent faire partie de ce peuple et devenir serviteurs de Dieu. Mais c'est extraordinaire. La croix sur laquelle Jésus est élevé, qu'est-ce qu'il dit ? Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ça, c'est le vrai plan de Dieu. Et non pas dire c'est lui qui avait raison et lui qui avait tort. Celui qui savait et qui avait raison a souffert pour que les autres qui le méconnaissaient puissent acquérir la connaissance. Et qu'est-ce que Dieu lui donne en échange? La pleine connaissance de son dessein. Extraordinaire. Les nations et les peuples d'Israël, dans la personne de Hérode et Ponce Pilate, se sont opposés au dessein de Dieu, en la personne de Jésus. Les nations qui le représentaient ont été sauvées et appelées au salut. Moi, ça ne cesse de m'étonner, et ça, c'est après 2000 ans d'avoir connu l'Évangile, n'est-ce pas? Ça donne un sens au commentaire de l'apôtre Paul en Philippiens chapitre 2. Relisons-le à la lumière de ce que Ésaïe dit. Bon, il parle aux chrétiens, comportez-vous entre vous comme on fait en Jésus-Christ, c'est un bon conseil. Lui, qui est de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Je ne sais pas comment vous comprenez ce passage. Il est là avec Dieu, le Père, il est en train de se battre pour savoir qui sera le premier. Ou il voulait rester tranquille au ciel. Je sais pas comment vous comprenez ça. Il décide d'obéir à Dieu en devenant un serviteur. Jésus n'est pas un serviteur simplement parce qu'il lave les pieds de ses disciples et il dit « il faut vous aimer les uns les autres et servir les autres ». Il dit « il faut être prêt à donner sa vie, n'est-ce pas, pour que les autres l'aient en abondance. C'est ce que je fais. » Il s'est dépouillé. Tiens, prenons la condition de serviteur. Pourquoi il utiliserait ce mot-là? Devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Là, il joue un jeu avec nous. Parce que ce serviteur souffrant, entre guillemets, comme on l'appelle, vous vous souvenez, tellement il était battu par les autres, il ne ressemblait même plus à un homme. Mais lui, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, c'est exactement ce que dit le texte, et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Bon, c'est dit à la Paul, mais c'est exactement la même chose que dit Ésaïe. Dieu l'a élevé parce qu'il a saisi, il a compris, il a obéi, il était jusqu'au bout, et même quand son propre peuple l'a rejeté, il n'a pas reculé. L'obéissance du Christ, c'est la force la plus puissante que je connaisse dans cet univers. Rien ne peut se mettre entre lui et Dieu.